Наоборот, наверное, тупое что-то. Я даже не попробовал, конечно. Чувствую, чем пахнет.
Так вот,
Alors voilà, c'est le matin. C'est le matin. Après cette nuit dans le tchoum, il a fait quand même très très froid parce que la nuit, évidemment, le poêle s'arrête. Alors on a dormi en mitouflé dans des duvets, dans des pots de rennes, dans des parkas avec un bonnet sur la tête. Et puis le jour a commencé au moment où le grand-père s'est levé le premier pour allumer le poêle. Et aussitôt, il y a tout un balai de mouvements et de gestes très très précis qui vont se succéder. C'est vrai qu'il y avait eu du vent toute la nuit et c'est un vent qui fait bouger les longues perches qui tiennent le tchoum. C'est effectivement, on les entend bouger quand le vent souffle, mais c'est qu'on comprend à ce moment-là que c'est construit de façon à ce que le vent s'épuise avec ce système de pente. Alors, en face, de l'autre côté du poêle, c'est le balagan, c'est-à-dire l'endroit qui est réservé à la famille. C'est là que la maman Larissa a passé la nuit avec ses enfants, parce que son mari, pendant ce temps-là, lui, il garde les rênes. Non loin de là, il passe 24 heures de suite. Alors voilà, cette nuit, une nuit douce de moins 15 degrés, eh ben, il l'a passée avec ses rênes, à les surveiller. Il n'a pas le droit de dormir, il a juste le droit de temps en temps de somnoler un peu en s'appuyant sur sa main. On nous a expliqué hier comment. Et puis celui qui parle en ce moment, c'est l'oncle Nicolas, qui lui, la mémoire... Il s'est réveillé, il a mis la radio, parce qu'il y a une radio, et alors c'était les infos. Et puis il a continué son travail, qui est en ce moment de fabriquer avec une éclisse de bouleau un collier en bois.
Время московское. Или подземные эклипсы собора Святого Петра. Далее выпуски новости спорта, с ними вас знакомит Виктория Полосова.
Et le corps de Jean-Paul II va être dans la crypte de la basilique Saint-Pierre.
C'était il y a un mois, ça, quand même. Hein. Les nouvelles mettent un certain temps avant d'arriver au fond des tchoums.
Juventus contre Liverpool.
Прошение выпуска прогноз погоды.
La météo.
Сегодня во вторник, 3 мая, ожидаемая температура воздуха днем в Калининграде плюс 15-17, дождь, Петрозаводский и Архангельский 4-6, Мурманский снег.
А Петрозаводский и Архангельский фра моин 4, моин 6.
Двери 11-13, дождь, в Ярославле дождь 10-12,
а Ярослав
14, в Йошкар-Оле 11-13, дождь, в Нижнем Новгороде дождь 10-12.
C'est très important, les informations.
Слушать новости, для меня, да, что-то интерес к этому есть.
Pour moi, oui, ça m'intéresse beaucoup d'écouter les nouvelles.
Сильно даже.
Ça m'intéresse beaucoup même.
Quel est le plus important, c'est la météo?
В общей сложности все, вот это погода плюс. И, а новости самое главное, конечно. А погода, это погоду мы видим.
La météo, c'est un plus, mais ce qui est important, c'est les informations, parce que la météo, on la voit. Ouais.
Жизнь России, вот это интересно.
C'est la vie en Russie, c'est ça qui m'intéresse.
Ouais, ouais, ouais. Pour pas être isolé.
Да, что-то, да, в этом духе получается.
Oui,
что-то есть, любопытство
quelque chose comme ça, sûrement, une curiosité, un intérêt pour ce qui se passe.
Ouais. Вот без этого не могу.
Je pourrais pas m'en passer.
Ouais. Je ne sais pas si les Français ont conscience du bonheur qu'ils ont d'avoir un ministre qui est aussi un poète. J'ai noté un poème que M. de Villepin a envoyé au préfet au mois de décembre 2004. Je vais me faire le plaisir de vous le lire. Mesdames et messieurs les préfets, je fais de la lutte contre l'immigration irrégulière une priorité absolue pour 2005. Des bons résultats ont déjà été obtenus cette année. Depuis le début de l'année, plus de 13 000 étrangers en situation irrégulière ont été éloignés, contre seulement 9 400 à la même époque de l'année dernière. Pour 2005, je fixe un objectif encore plus ambitieux, avec 20 000 éloignements. Quand je parle d'éloignement, j'inclus les exécutions d'arrêtés de reconduite à la frontière, les expulsions, les interdictions du territoire français. Le nombre de places de rétention sera ainsi porté à 1600 à la fin 2005. La régularisation est une procédure de droit commun. Il convient de proscrire plus que jamais les démarches collectives fondées sur des listes de sans-papiers établies par des intermédiaires. Vous devez maintenir le dialogue avec les associations, notamment pour les conduire à bien distinguer ce que vous ne pouvez pas accepter. Face aux tentatives d'établir un rapport de force, notamment par la constitution d'un abcès de fixation local au moyen d'occupation de locaux privés ou publics, votre réaction doit être immédiate. Je voulais simplement dire combien nous devions être heureux d'avoir un ministre poète. Ah, c'est beau l'hospitalité, c'est beau la France.
Voilà pourquoi... Amis xénophobes, voilà pourquoi nous sommes partis et nous partons aujourd'hui pour le Grand Nord russe. On va retrouver l'oncle Kolia qui écoute la radio le matin pour avoir des nouvelles du vaste monde. On va retrouver le monde autour de lui et sa famille, ses enfants et sa bru et ses reines, des centaines et des milliers de reines qui sont autour de ce tchoum. Le tchoum, c'est l'habitat des nénets et on est avec des nénets. On est à 2000 kilomètres au nord de Moscou et c'est la balade qui commence aujourd'hui.
Nous savons où ça se passe.
Nous savons où ça se passe.
Radio Russie. C'est la garantie de la qualité. Musique sur Radio Russie. Arabesque.
Там, где я нахожусь.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Aude Merlin. Gloire à ceux qui ont vaincu le cercle polaire. Le cercle polaire, le Grand Nord, l'Arctique, une nuit blanche dans l'enfance, à lire l'histoire du courageux chien blanc qui toute la nuit lutta contre les loups, histoire de traîneaux, d'esquimaux, d'ours bruns et de loups blancs, Groenland, rien que dire Groenland, rien que dire Samoyède, rien que dire Boréal, rien que dire Alaska, rien que dire Toundra, rien que dire Bering. Depuis des années, je feuillette un livre de la photographe Françoise Huguier, En route pour Bering. De Moscou à Bering, 7 fuseaux horaires à travers la Sibérie démesurée. Dire Sibérie, c'est dire démesuré. 12 millions de kilomètres carrés, et pourtant, en plein été, une petite table bancale, deux assiettes, des fleurs, un instant d'amour ou d'amitié au bord de l'immensité. Alors commençons par les clichés, alors commençons par les rêveries, alors commençons par l'enfance, mettons exceptionnellement le bonheur en premier, on ne sait pas ce qui peut arriver et en route pour la toundra. Il y a 2 avions par semaine pour Vorkuta. Et le train met 36 heures pour faire les 2000 km. Et ça fait comme un cheveu, pas plus épais qu'un cheveu, sur l'immensitude glacée, l'immensitude du Grand Nord russe et de la Sibérie. Sibérie est un mot qui vient du mongol et ça veut dire territoire endormi. Et quand, enfin, le train franchit le cercle polaire, c'est le printemps. Il fait moins 15 degrés seulement, moins 10, alors que moins 35, moins 40 en hiver ici sont fréquents. À Oymyakov, village de Yakoutie, sur l'Indigirka, la température peut tomber à 80 degrés, c'est-à-dire en dessous de la vodka. On rigole dans le train, on boit à la victoire, à la rencontre, à nos mères, à nos femmes. Et à droite, les montagnes bleues et roses que vous voyez, c'est l'Oural. Bleu et rose, l'Oural, parce qu'il est 2h du matin et il n'y a plus de nuit. Au début mai, la nuit disparaît. Nuit blanche, mais en juin, le soleil ne se couche pas tout à fait. Il rebondit sur l'horizon. Ça passe du crépuscule à l'aube, du jour au lendemain ainsi. Et en hiver, en revanche, le jour dure à peine 2 heures, parfois moins. Durant le bref été, il fait très chaud. Et les moustiques vous rendent à peu près fou. Pourtant, depuis la nuit des temps, cette drôle de nuit de par ici, pourtant, des hommes habitent. Quand je dis Grand Nord russe, quand je dis Sibérie, vous entendez terre de bagne, terre d'exil, l'archipel du goulag, territoire extrême, solitude infinie. Mais, hors de ces images, il y a dans cette partie du monde les commis. Connaissez-vous les commis qui sont plus de 300 000 à l'ouest de l'Oural? Et les Koryaks, moins de 10 000, qui vivent à des milliers de kilomètres des premiers dans le Kamtchatka. Il y a les Kereks, qui se comptent sur les doigts de peu de mains, au sud de la Tchoukotka. Et les quasi 400 000 Yakouts, qui ont retrouvé leur nom de Saka et règnent sur un territoire, la Yakoutie, grand comme 9 fois la France. Il y a ceux dont la langue est du groupe finno-ougrien, comme les Kanti et les Manti du flop Ob. Et ceux dont la famille est celle des langues tuguzo-manchoues, telles les Nanaï du fleuve Amour, mais aussi les Negidal, les Orok, les Oroch, les Oudégué et les Ulch. Il y a les Nifk, qui sont les voisins des Ulch au bord du fleuve Amour, et que l'on rencontre aussi sur l'île de Sakhaline, proche du Japon, dont la langue ne se rattache à rien et dont les vêtements en peau de poisson font irrésistiblement penser au couturier japonais de Paris, Issei Miyake. Il y a aussi, bien sûr, les Tuva et les Tchouch, que tout sépare, les Yupit ou Yuit, qui vivent en Tchoukotka. Ils sont moins de 2000, comme d'ailleurs les Tchouvantse, qui vivent non loin de là. Il y a les Yukagir, que l'on croise en Yakoutie et dont la langue est de la même famille que celle des Tchouvants, mais qui sont encore moins nombreux, 1000 à peine. Il y a les Veps et leurs cousins les Vod, les Ijor, tous de la famille des langues finnoises, comme les Igermalan, qui n'ont rien à voir avec les Itelmen, lesquels vivent du côté de la mer d'Okhotsk. Il y a encore les Even et les Evenk, qui sont proches, et aussi les Altaïens, les Tchor, les Dolgan, les Ket et les Kakas, que la géographie, la langue sépare, mais que le destin a jeté dans un même pot. Il y a aussi les nombreux Bouriates, les rares aléoutes, les aïnouïs des îles Kouriles, les Saham, les Selkoup, et puis il y a les Nénets. Voilà, je lis quelques lignes écrites par Jean-Pierre Thibaudat, journaliste, qui a fait de longs voyages dans ces régions du monde pour son journal, pour Libération, et qui dresse là un panorama, je crois, incomplet des peuples de la Sibérie et du Grand Nord russe, ceux que Lénine avait appelés les petits peuples du Nord. Eh bien, c'est deux de ces petits peuples du Nord que nous allons rencontrer, les Nénets et les Komis. Le train roule dans la République des Komis et nous allons vers Vorkuta. Au sud de la Sibérie, un ancien détenu, un ancien zec, zec ça veut dire détenu, nous avait autrefois parlé des primes vertes quand le printemps vient, quand la neige commence à fondre. Il nous avait expliqué que le goulag n'avait pas besoin de barbelés autour des baraques. L'hiver en tenait lieu. L'hiver est le meilleur gardien de camp que vous puissiez imaginer, disait-il. Et les primes vertes, quand le printemps venait, eh bien, c'était les crânes qui apparaissaient. Les crânes de ceux qui étaient morts de froid durant l'hiver, ou qui parfois avaient tenté de fuir, ou qui avaient été tués. Printemps du goulag, et ce train, cette voie ferrée que vous entendez, ce bruit, sachez que sous chaque traverse, il y a un mort. Il se trouve toujours quelqu'un pour vous le rappeler. Au moment où vous vous abandonnez à la torpeur, vodka, poisson cru, molossol et petits beignets farcis, et quelques samovars de thé, il se trouve toujours quelqu'un pour vous rappeler les milliers qui sont morts lors de la construction de la voie ferrée qui longe l'Oural. Oural. Louis Aragon, poète stalinien, qui fut à Staline ce que nos intellos d'aujourd'hui sont au libre-échange. Louis Aragon chantait Oural au moment même où Staline, son idole, le petit père des peuples, envoyait en déportation des dizaines de milliers d'ennemis du peuple, comme il disait. Et Louis Aragon le savait, et les intellectuels français le savaient, et le Parti communiste le savait. Les abuseurs publics ne datent pas d'aujourd'hui. Oural. Bien peu de déportés ont chanté cette chanson-là en arrivant à Vorkuta. Alors là, il y a des tables, on est en train de boire de la bière, on est en train de boire de la vodka, on est en train de manger de la viande de renne.
Le marcocan, c'est une très très vieille tradition.
Ah, c'est vraiment, on dirait des fêtes d'un autre siècle. Hein.
C'est une femme hein, qui...
Il y a un grand, grand mât, mais vraiment immense, hein. Et avec une foule autour qui regarde, et il y a une personne, c'est une femme en effet, qui monte. Alors je ne sais pas ce qu'il y a en haut du mât. Et puis là-bas, sur le monticule, là-bas, il y a une figure de carnaval qui représente la babouchka de l'hiver, qui va être brûlée tout à l'heure pour dire que c'est la fin de l'hiver, que c'est la résurrection du Christ et que c'est la fête du travail. Tout ça aujourd'hui, à Vorkuta, la ville qui a vaincu le cercle polaire. Elle va y arriver. Voilà, elle reprend son souffle. Évidemment, c'est la partie la plus savonnée, hein. Ah, ça y est, elle y arrive. Elle est main nue, hein. Elle est main nue.
Il y a un prix. Il veut avoir une télé, une machine à laver, dans le prix.
Ah, d'accord. Elle a gagné. Alors maintenant, elle va redescendre.
Avec sa machine à laver.
Elle a gagné peut-être une machine. Il faut qu'elle redescende doucement, hein. Voilà, la voilà qui va toucher le sol. Voilà.
Le maire.
Ah, voilà notre ami. Le maire de Vorkuta, qui vient de l'embrasser. Voilà, elle a gagné. Alors là, c'est vraiment un très grand moment. Voilà, ben c'est une belle fête à Vorkuta. Hein. Oh ! Il y a un garçon qui va monter sur le mât de cocagne et qui est torse nu. Je ne le crois pas.
Il est en short.
Il fait moins 5. Ah, ça, c'est extraordinaire. Il est très costaud, ce garçon. Ah, ouais. Il est torse nu. Il est en slip de bain, quoi.
Ah, ça y est, ils
vont brûler le...
Oh, grand moment.
Ça y est.
Ah, magnifique. Regarde, c'est quand même extraordinaire. Tu as, voilà, la babouchka de l'hiver là, qui finit de brûler en crépitant, les flammes. Au-dessus, tu as toute cette foule. Et puis là, tu as les nénettes avec leur reine. Les femmes nénettes, c'est leur costume. Toutes petites, elles sont. Hein, leur costume chamarré, leur costume en peau de reine. Et puis, tu as des femmes russes qui passent, qui font 1m80 en poussant des landaus, avec bien capitonnés, avec leurs enfants dedans. Et là, tu as les femmes nénettes, avec leurs enfants capitonnés aussi, dans des costumes en peau de reine. Tu as vraiment l'impression que c'est deux mondes étanches, hein, qui se côtoient, mais qui s'ignorent tout à fait.
Enfin, sauf quand les enfants des Russes vont sur le traîneau et...
Voilà, il y a un petit moment. Il y a un petit moment là. Ah, les reines qui passent. Combien ça coûte le tour en traîneau là pour les enfants?
30, 40.
C'est pas très cher. Vous vivez à quel endroit?
Moi je vis en toundra.
On vit dans la toundra.
Ah ah. Où ça? Loin d'ici?
Kilomètre 60.
À 60 km d'ici.
Vorkuta. Vorkuta, c'est une ville énorme qui a été entièrement construite par ceux du goulag, par les détenus du goulag, par les ek. On disait autrefois « Vorkoutlag » au sens de « goulag »,« Vorkoutlag ». Et « Vorkouta », si vous entendez ce mot, ben vous entendez un mot « Nenets ». Ça veut dire « la rivière des ours ». Voilà, la lampe « Nenets » qui passe sur les antennes de France Inter parce, à travers ce mot « Vorkouta ». On dit aussi « Vorkouta Ugol », ça veut dire « Vorkouta le charbon ». C'est la raison pour laquelle cette ville a été créée. À la fin des années 20, on avait découvert du charbon dans cette région quand même pas très hospitalière. On est à 300 km au nord du cercle polaire. Et on a envoyé, là, le charmant Staline a envoyé dans ces régions les ennemis du peuple qui ont creusé, qui ont bossé au fond des mines, qui sont morts parfois, souvent, et qui ont construit cette voie ferrée par laquelle on peut accéder jusqu'à Vorkouta, et qui ont aussi construit cette ville tout entière. Toute la ville de Vorkouta a été construite par les ex. C'est une mémoire dont on est plus ou moins fier aujourd'hui. Il n'y a plus aucune trace, on le verra, de ces détenus, de ces ex. Mais ce qu'on a vu dans cette fête du 1er mai, c'est la proximité avec les nénettes, c'est-à-dire les habitants, les autochtones de cette région. Et c'est eux qu'on va rencontrer. On a donc on s'est arrangé avec un certain Sergueï. On est monté à bord d'un traîneau tiré par sa motoneige. Et nous voilà partis emmitouflés, équipés. Il fait moins 10, moins 15 degrés à travers la toundra. Et c'est un éblouissement. On tombe très très vite en panne de superlatif, même si quand même l'épreuve est difficile. Là, on est vraiment au milieu de nulle part. Ça s'appelle du milieu de nulle part. On est avec nos deux amis russes. Ils sont équipés comme des fous, avec leurs flingues, avec ces deux motoneiges, ces deux traîneaux. Il y a un traîneau sur lequel il y a des vivres, une bâche et un gros tuyau sur le dessus. Je suppose que c'est des équipements divers et variés. Puis nous, on est avec Aude sur l'autre traîneau. Et c'est vraiment un éblouissement de blancheur. On est en train de suivre une voie ferrée, j'ai l'impression. Ou une route, peut-être, parce que tout ce qui reste de visible dans tout ce blanc éblouissant, c'est quelques poteaux télégraphiques, quelques griffures de végétation. C'est vraiment très, très beau. Et puis, de temps en temps, un oiseau qui s'en va, qui ressemble, je sais pas, à une sorte de d'oie, peut-être, qui s'envole, des oies blanches, comme ça, avec quelques points noirs. Et voilà, et il fait évidemment très très froid et très 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 beau. Évidemment, toute l'histoire, c'est de s'équiper. Et alors, on est équipé comme des fous, comme pour aller sur la Lune. Sergueï, dis-nous où on est là.
Dans la toundra.
On
est à 20 km au sud de Vorkouta et on continue vers le sud.
Attends, tu veux me dire qu'on a fait que 20 km?
On a fait 20 km en tout.
Et on va faire combien? 4 fois ça?
80 km.
On a encore 80 km à surmonter.
À surmonter. On entend la voix de Aude. C'est très drôle, hein. On dirait vraiment un déguisement de carnaval. Mais tu te rends compte là, comment on est équipé? Imagine ce que ça pouvait être, comment les ZEC ont pu construire ça. Comment ils pouvaient vivre, comment ils pouvaient survivre. Là, il fait moins 15, moins 17, je ne sais pas la température d'ailleurs. Allez, on continue la route? Allez, on continue. Ça dure comme ça pendant des heures et c'est vraiment une pure splendeur. Mais il faut être très 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 bien équipé. Il faut être très bien équipé parce qu'il fait très très froid et la lumière est terrible. Il faut des très bonnes lunettes de soleil, par exemple. Il faut se protéger de tous les côtés. Surtout que là on est à l'extérieur et ça n'a l'air de rien. Mais c'est une grosse difficulté technique aussi pour enregistrer, tout simplement, parce que les magnétophones se vident très vite, les batteries ne tiennent pas. Et quand on, pour appuyer sur les commandes d'un magnéto, ben il faut sortir ses mains des moufles. Et on a très peur de retrouver son doigt ou sa peau collée sur le micro, par exemple. Donc voilà, ça a l'air de rien, mais c'est toute une préparation très précise. Et c'est bien sûr que nous n'avons pas du tout l'habitude, mais nos guides, ceux qui nous emmènent, font très très attention eux aussi à tout ça. Les choses sont très très précises. On plaisante pas avec la toundra. On va le voir encore plus avec quand on arrivera, si on les trouve. Mais on va bien sûr les trouver avec les éleveurs, avec ces nénettes, dont on le verra, toute la vie est faite de gestes extrêmement précis, d'une ergonomie, d'une économie qui évidemment qui est en paradoxe complet avec nos vies d'ici, de gâchis, de confort et de tout à fait différent. Et c'est donc un moment merveilleux. Mais c'est surtout ces paysages qui sont à la fois sublimes, terrifiants et avec toujours, d'autant plus qu'on longe pendant assez longtemps une voie ferrée recouverte de neige, et avec quelques poteaux télégraphiques qui restent comme ça en ruine. Mais c'est autant de vous imaginer une page blanche et de temps en temps une page blanche éblouissante, de temps en temps un petit trait, un petit graffiti comme ça qui marque un poteau, un arbre, et des oiseaux qui s'en vont brusquement comme ça devant nous, des oiseaux blancs, ou bien des lièvres blancs aussi en troupeau. On voit la nuit la nuit est encore claire et presque comme en plein jour actuellement dans cette région. Il y a des chouettes blanches aussi absolument magnifiques, qui sont les personnages et qui sont le peuple dont nous traversons le royaume. Il fait -10, -12. Et je sais pas trop si le magnéto va tenir. Et pourquoi vous avez pris vos fusils, les gars, là?
Мы взяли ружье, чтобы охранять стада оленеводческие, потому как сейчас будем ездить по бригадам, и если в бригаду придет волк или зайдет медведь, то его, конечно, нужно будет уничтожить.
On a pris les fusils pour protéger les troupeaux de rennes, parce que si il y a un loup ou un ours qui arrive, il faut absolument les tuer, le loup ou l'ours, pour protéger les rennes.
Ah, là-bas, c'est les monts Oural. On aperçoit derrière cette isba en ruine, cette maison en bois, qui date du temps des Zèques, du temps du Goulag. Et ça, c'est une ville, enfin un village, disons, qui avait été construit parce qu'il y avait des mines. Mais aujourd'hui, tout est abandonné depuis 5 ans. C'est un village fantôme qui va être repris par la taïga. La taïga va reprendre peu à peu ses droits qui sont le désert blanc. Et de temps en temps, il y a ces oiseaux magnifiques. Et puis des lièvres, d'énormes lièvres blancs. Parfois par petits troupeaux, hein, ces lièvres. C'est incroyable. C'est fréquent, les lièvres?
Ah, c'est постоянно.
En permanence. Là, il y a des traces partout.
Ah, mais oui, 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 oui. Alors, c'est mouvementé quand même, ce parcours agrippé sur nos traîneaux.
Il y a un moment où le traîneau décroche de la motoneige et notre chauffeur se rend pas compte. Alors il continue d'avancer, de rouler. Et on est comme deux crétins agrippés à notre traîneau perdu au milieu de la toundra. Heureusement, il va se rendre compte. C'est quand même très 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 mouvementé. Et là, on s'est arrêté dans ce village fantôme quelques instants, et on voit que rien n'a l'air de pouvoir résister à ce climat, et encore plus que ce climat, ce personnage, cette chose, cette entité que on sent dans la façon que les gens de la région, que ce soit les Russes comme Sergueï ou les Nénets qu'on va rencontrer, ont de dire le mot toundra. Un village fantôme. Il y a une cheminée là qui reste. Ah oui, il y a des barrières. On dirait comme un... peut-être un enclos. Et là, regarde cette maison. Est-ce qu'on peut aller jusque-là sans s'enfoncer dans la neige? Et toutes les traces, c'est des traces de pattes de lièvre partout. Pas de traces humaines, évidemment. Voilà, maison fantôme. Ce qu'il y aurait des gens vécu là. C'était quoi les tuyaux, d'après toi, Sergueï, là?
Le chauffage,
c'est ça, oui.
Il y avait une centrale thermique. C'est les commis et les Russes qui vivaient là.
Les commis, c'est une autre ethnie, hein. Des innombrables peuples du Nord. Hein?
Je pense qu'ici, c'est partout que les premiers habitants, c'était des Zèques.
Oui, enfin, après les Nénettes, après... après les commis, après...
Oui.
Les premiers colons, on peut dire. Les premiers colons forcés.
Et les premiers colons.
Que tu as trouvé?
Je demandais à Sergueï, on parlait des commis sédentarisés, puisque parmi les commis, il y a plus de gens qui ont quitté le nomadisme pour se sédentariser et vivre avec les Russes en ville. Et Sergueï vient de m'apprendre que Nikolaï, qui nous conduit depuis 40 km, c'est un commis qui avant était nomade, qui... vivait dans le Tchoum avec les troupeaux de rennes et qui a décidé après l'adolescence de vivre en ville. Alors maintenant il travaille avec Sergueï dans sa coopérative.
Voilà.
Il est devenu son associé, il connaît très très bien tous les chemins, tous les sentiers, il connaît très bien la toundra.
Et c'est reparti. Où est-ce qu'on va comme ça? Eh ben, on va essayer de retrouver les éleveurs, les Nénets éleveurs de rennes qui ont commencé leur transhumance. Quand le printemps vient, quand la température se radoucit, ils remontent vers le nord. Ils remontent vers la mer de Kara avec leurs troupeaux. Et les Nénets, depuis la nuit des temps que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire je sais pas très bien quand, et on ne sait pas très bien quand, eh bien, ce sont des éleveurs nomades et qui montent vers le nord, je le disais, quand le printemps vient, et lorsque les froids s'annoncent, c'est-à-dire à la mi-août, par là, vers la fin août, ils redescendent doucement vers le sud, et ainsi de suite. Selon leur trajet est une bande, on appelle ça une bande, du nord au sud et du sud au nord. C'est leur vie, c'est leur trajet, ce sont des trajets extrêmement réguliers qu'ils font à quelques kilomètres près, même pas, à quelques centaines de mètres près, ils retrouvent les mêmes étapes chaque année. Mais ce qui les tire et ce qui les fait bouger, c'est évidemment pas la poésie. La poésie résulte de tout cela, mais n'en est pas évidemment le motif. Le motif, c'est les rennes. Là où il y a des rennes, il y a des nénettes, il y a des éleveurs de rennes. Et pas le contraire. Les nénettes, les éleveurs, suivent les reines qui suivent leur nourriture, qui est une sorte de mousse, et c'est l'évolution de cette mousse, c'est le mûrissement de cette mousse qui fait que les reines eux-mêmes se déplacent. Donc tout dépend du climat, tout dépend de l'évolution du climat, tout dépend du sol. Voilà, c'est la géographie, la géologie qui fait les reines, et les reines font les nénettes. Et voilà pourquoi ça donne évidemment envie de rencontrer des gens qui vivent toujours, aujourd'hui, avec cette façon de vivre, ce mode de vie. Alors il faut quand même maintenant qu'on les trouve, et ça c'est pas évident. Alors on tourne en rond assez longtemps sur nos traîneaux, et puis on va dans un sens, et puis on va dans l'autre, et puis on se perd un peu, et enfin on trouve la piste. La piste, eh ben, c'est des traces de pattes de rennes dans la neige. Et là, il n'y a plus qu'à suivre la piste, si possible dans le bon sens. Et enfin, à l'horizon, on aperçoit deux triangles posés sur l'horizon. Ces deux triangles, ce sont des tchoums, c'est-à-dire ces tentes qui ressemblent aux tipis des Indiens que nous connaissons dans notre enfance. C'est d'ailleurs des cultures, on le verra, très proches les unes des autres. Celles de ces peuples du nord, du grand nord russe ou de la Sibérie, et les Indiens des Amériques du Nord. Et voilà, ils sont à l'horizon, on les aperçoit, et bien sûr ils ont entendu depuis longtemps dans le silence de la toundra le bruit des moteurs des motoneiges, et enfin nous arrivons. Alors, étonnement de voir en vrai ceux que nous voyons d'ordinaire sur des photos. Je parlais des photos de Françoise Huguier ou d'autres. Et ben, ils sont là. On nous avait dit, oui, ils parlent pas très facilement. Et alors, c'est une hospitalité, une gentillesse, vraiment comme si on nous attendait. Qu'est-ce qu'on voit devant nous? On voit ces fameux tchoums, donc qui sont recouverts de peau de renne. Tout est fait à partir du renne. Tout est en renne. Les vêtements, la nourriture, la ressource, tout est. C'est la seule nourriture d'ailleurs. Hein. Rien ne pousse dans ces régions. Enfin, rien qu'on ne puisse cultiver. Bien sûr que l'été, la toundra est verdoyante et fleurie. On trouve quelques baies, mais c'est quand même évidemment pour la plupart du temps, il faut se nourrir du renne. Exclusivement du renne, sachant que les éleveurs avec qui nous sommes n'utilisent pas le lait des rennes. C'est dans d'autres régions on l'utilise, mais pas ici. Et c'est tout ça que nous allons apprendre. On a hâte de découvrir tout ça. On est comme des enfants. Et aussitôt, on nous invite à rentrer dans le tchoum avec guidé par Larissa, qui est la maîtresse, la souriante et très très jolie maîtresse de maison.
Мальчишки игрались на улице, сейчас в чуме.
On est dans le tchoum
maintenant.
Люди
приехали, да, не в
чуме сейчас. Là, on a des gens qui sont venus nous voir.
Вова в чуме, а дед в лес поехал.
Вова est dans le tchoum, mais le grand-père est parti au bois.
А я шкуры на них выделала, да. Еще надо делать.
Il faut que je fasse encore des peaux. On doit encore bouger, là, on va transhumer pour un mois après. Salut.
On est au milieu de la toundra, vraiment au milieu de la toundra. C'est là où nous sommes, dans un tchoum. Et celle qui vient de parler, c'est Larissa. Larissa, c'est la maîtresse de maison, c'est la maîtresse du tchoum. Qu'est-ce que c'est qu'un tchoum? Eh ben, c'est une tente de nomade qui ressemble tout à fait aux tentes de Peau-Rouge de quand on était petit. Et là, on a fait 5 heures de motoneige, secoué d'une façon horrible, agrippé au traîneau derrière la motoneige, avec Aude. Et après des heures, on est arrivé ici. On a trouvé les traces du passage du troupeau de rennes. Alors, on a suivi littéralement les rennes à la trace. Et puis, on est arrivé, c'est vraiment comme dans les dessins d'enfants, comme dans les histoires qu'on lisait quand on était gamin, les histoires de James Oliver Curwood, les histoires fantastiques. Et là, des rennes, des traîneaux, et puis la famille chez qui on se trouve. Et là, ils ont commencé à bouger, ils bougent tout le temps, ce sont des nomades. Et là, ils vont commencer la grande transhumance vers le nord. Et alors, pour essayer de décrire le tchoum, eh ben, c'est une tente, effectivement, à l'intérieur, ça paraît très grand. Ah, évidemment, le tchoum est fait entièrement en peau de renne. Quand on ouvre la porte, on se trouve tout de suite, il y a une petite entrée, enfin, une planche, et devant soi, on a un poêle à bois. Ça, c'est l'élément principal, avec un tuyau de poêle qui monte et qui fait l'axe, qui fait le poteau mi-temps du tchoum, et puis de chaque côté on a des endroits pour se tenir, pour s'allonger en peau de renne. Comment s'appelle cet endroit?
On est dans le balagan. Oui. Enfin, le balagan, ce sera le rideau lorsqu'il sera mis en tenture pour séparer la pièce commune de la chambre qui sera le long de la base du tchoum, comme
voilà.
Un cercle.
Voilà, ça c'est l'appareil photo.
Je dérange.
Pas du tout, Larissa. Non. Larissa remonte ses photos. Merci à tous, on continue demain. Merci à Larissa, merci à nos amis éleveurs de la brigade numéro 1. C'était Aude Merlin qui était avec moi et qui traduisait un livre de Jean-Pierre Thibaudat et Claudine Doury, qui est une photographe formidable, qui s'appelle « Peuple de Sibérie ». Du fleuve Amour aux terres boréales, aux éditions du Seuil, avec des photos de Claudine Doury qui donnent tout à fait l'idée de ce qu'est cet endroit du monde et ce que sont ces éleveurs nénettes. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique Là-bas, si j'y suis. Technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos. L'équipe de Là-bas, si j'y suis, c'est Antoine Chao, Yann Chouquet, Pascal Pascariello et Christophe Imbert. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. C'est Raphaël Moutarde qui
pilote le montage de ce voyage. Le mail de la base UJ Suisse est daniel.mermer@radiofrance.com. On continue le voyage demain à 17h dans la base UJ Suisse. Dans 1 minute et 8 secondes de réclame, vous retrouvez Frédéric Bonneau et son charivari. Salut, à demain.